Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
Souvent, ça m'est arrivé quand j'ai commencé un tableau que je ne pouvais pas finir à cause de un changement de météo, une manœuvre nécessaire. Donc, les tableaux sont faits par petits bouts. Et les barreurs, on barre 3/4 d'heure et puis ça change à quelque autre. Parce que c'est un bar à roues et nous sommes dehors. Donc, dans mes tableaux, ce n'est pas une seule personne. C'est presque comme un collégial, en fait, parce que la première personne commence à barrer, et souvent j'étais obligée d'arrêter pour maintes raisons. Et ben, quand je revenais, plus le même barreur, il y avait quelqu'un d'autre. Donc, dans les tableaux, il faut avoir la tête d'une personne, le combi d'une autre, la posture d'une troisième. Et celui-là, je l'aime bien, ce premier tableau, parce que c'était une femme qui barrait. Même si c'était démarré avec un autre barreur, je crois que c'est une femme.
Anne Smith, 61 ans. Peintre officielle de la marine, embarquée pour les îles Féroé sur la goélette de la marine nationale, l'Étoile.
J'étais un enfant malade. J'étais un enfant qui était toujours malade. Et j'ai passé pas mal de temps au lit. À l'époque, il n'y avait pas les jeux Internet et toutes ces choses comme ça. Alors, les deux moyens de passer le temps, c'était la lecture et le dessin. Et mon père, il travaillait à l'aéroport de Londres, à Gatwick, qui n'était pas très loin de la ville, de la cité où j'ai grandi. En fait, il volait des gros cartons de papier. Il ramenait les blocs entiers de papier. Et moi, j'ai passé mon temps à dessiner. Et j'ai compris, en fait, entre les livres et le dessin, on peut s'échapper dans un monde imaginaire et on a la liberté et on s'ennuie jamais. Et alors, je crois que c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Parce que je m'ennuie jamais. Je suis quelqu'un qui est toujours contente avec le moindre petite chose qui se passe, même une mouche qui passe. Il y a quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà. Alors le dessin a commencé comme ça. Quand j'arrivais en France, je ne savais pas parler français. Alors quand on ne sait pas parler la langue dans un pays où on habite, on est quand même un peu coincé parce que pour gagner sa vie, c'est pas facile. Donc, la seule chose que je savais faire, c'est dessiner. Et j'ai trouvé que c'était un moyen à la fois de communiquer avec les gens et aussi gagner ma vie. Parce que quand je me suis trouvée sur une terrasse, par exemple, d'un bistrot ou chez les gens, on fait un dessin de leur maison, de leur chien, de leurs enfants, un petit portrait de la mamie, on fait le bateau. Et puis ça, c'est un troc après. C'est une sorte de monnaie. Alors, c'est très encourageant pour continuer à faire le dessin, en fait. Je ne m'intéressais pas du tout aux bateaux. En fait, je ne connaissais absolument pas les bateaux. Il n'y a personne dans ma famille marin. En fait, ce n'est pas vrai. J'ai un parrain qui était marin, mais je ne l'avais jamais vu. Mais il restait quand même un sorte de personnage sous l'horizon qui était aventureux, aventurier. Non, je ne connaissais pas les bateaux. Je crois que la première fois que je suis allée sur un bateau, j'avais 28 ans et c'était un Brittany Ferry pour traverser la Manche. C'était le Quiberon. Je n'ai pas un très bon souvenir de ce bateau. J'avais dans ma tête. Il y avait toujours force 10 chaque fois que j'ai traversé la Manche. Les conditions épouvantables et j'étais toujours malade. Alors, non, les bateaux, à la fois, c'était quelque chose de mystérieux qui me rendait malade. Puis, impossible à dessiner. Je ne sais pas si vous avez essayé de dessiner un bateau, mais la perspective est absolument horrible. C'est tout en courbe. Rien ne se passe comme on imagine. C'est pas du tout comme toutes les choses que j'avais l'habitude à dessiner. C'est pas comme les maisons ou les voitures ou les chevaux. Non, j'avais pas envie de me lancer dans les bateaux. Mes premiers essais, c'était une catastrophe. Tout ça a changé. Par une rencontre avec une pétrolier. Un pétrolier, en fait, c'était un méthanier qui s'appelle Finima. Et je l'avais vu, ce bateau verte émeraude. C'était en octobre et il faisait très beau. Et pendant 3 semaines, il y avait la lumière rasante sur le port avec cette méthanier qui fait quand même 200 mètres de long. Avec cette verte émeraude, c'était tellement beau. Alors voilà, c'était le début d'une histoire d'amour avec les navires vraiment très grands, qu'il faut dire sont plus faciles à dessiner parce que les côtés sont lisses et ils sont très droits. Donc c'est plutôt comme un immeuble qui tombe dans la mer des pétroliers. Puis après, j'ai découvert les histoires de les étraves, les boues, les façons de propulser les bateaux. Et je me suis lancée dans la perspective des bateaux. Et après, c'était parti. J'avais entendu parler des princes de la marine. C'est les gens qui étaient spécialisés dans tout ce qui est maritime. Et je les avais entendus parler de ces peintres. J'étais basée à Brest et j'ai travaillé autour des quais de Brest et dans les fonds des cales sèches. Mais je ne me sentais pas vraiment concernée par eux. Pour eux, c'était une sorte de mystérieux élite qui savait tout faire. Et moi, j'étais la nana qui peint ces navires au fond des cales sèches. Je pense que j'ai passé 10 ans au fond d'une cale sèche, carrément. Mais ce que m'intriguait avec la marine, c'était les ateliers qui étaient dans l'autre côté à Brest. Et le port divise en deux. Il y a le port de commerce, il y a le port militaire. Et je savais que dans le port militaire, il y avait les ateliers. Les ateliers, il y a les choses mystérieuses comme les preuves des chaînes. Alors, je ne savais pas ce que c'était, mais je voulais voir ça. Puis, il y a aussi les alézeuses et les matériels pour la construction. Quand j'étais un peintre du monde industriel, ce côté-là m'intéressait. Alors, je me suis essayé de l'avoir en entrée, le côté militaire. Et en étant anglaise, c'était impossible, parce que les Anglais n'avaient pas signé le traité de Schengen. Alors, si j'étais allemande ou italienne, j'aurais eu une entrée, mais en étant anglaise, c'était niet. Alors, ça, c'était un défi. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai envie d'aller peindre dans ces ateliers. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais changer de nationalité. Et puis, j'ai postulé pour être un peintre de la marine, parce que eux, ils peuvent aller où ils veulent. Ça m'a pris 3 ans de me naturaliser français. Française. Et dans le foulée, j'ai exposé à Salon de la Marine à Paris et j'ai été nommée tout de suite. J'ai eu une chance incroyable. Je pense qu'il y avait deux choses qui étaient un atout pour moi. J'étais à Brest. Alors, Brest, c'est un grand port avec énormément de bateaux. Et le peintre qui était vraiment sur le terrain, Pierre Perron, était décédé. Donc, il y avait une place pour un peintre dans ce pot. Puis, il faut dire que c'était une époque où la marine commençait d'ouvrir vers les femmes davantage, parce que c'est encore très restreint. Il y a 10% des femmes qui naviguent avec la marine. Et bien, dans les peintres de la marine, il n'y avait pas 10% des peintres. Donc, ce n'était pas un désavantage d'être une femme à ce moment-là, avec une spécialité quand même un peu différente de tous les autres, parce qu'au moins, c'était paysage industriel. Alors, malgré le fait que j'étais d'origine anglaise et une femme, j'ai quand même arrivé de mettre une pied dans la porte ou dans le port. Je n'avais pas pensé du tout à leur côté embarquer sur le bateau ou naviguer. C'était juste pour aller voir ce qui se passe dans l'autre côté de la port de Brest. Et d'être empreinte de la marine, dans beaucoup de privilèges, parce que ça donne la possibilité de d'avoir un accès à tout ce qui est maritime de la marine nationale en France et dans toutes les bases françaises, n'importe où ils sont dans le monde. Alors, c'est à la fois, moi, j'ai pensé juste à Brest, mais j'ai vite compris, en fait, que je pouvais aussi aller peindre à Toulon, ou je pouvais aller dans les sémaphores, je pouvais aller sous les bateaux. Il n'y a pas de solde, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une contrepartie. On a une liberté totale, on a carte blanche. La marine a confiance en nous. Nous sommes 20. Au début, agréé pour 3 ans renouvelables. Si la marine renouvelait cette période de 3 ans, 3 fois de suite, on devient titulaire, et à ce moment-là, c'est à vie. Une institution, c'est un titre qui a été créé officiellement en 1830, mais en fait, ça date de beaucoup plus loin que ça, parce que dès qu'il y avait les rois de France qui voulaient faire les voyages découvertes, ils avaient envie les peintres à bord. On sait très bien qu'il y a toujours les peintres sur les bateaux de voyages découvertes qui faisaient des dessins, les gravures, les peintures de la flore, faune, architecture, peuple, la côte, et en fait tout ce que les bateaux touchaient et découvertes. Alors, nous, on continue dans cette tradition. Et ben, ce n'est pas seulement les peintres, c'est aussi maintenant ouvert aux photographes, cinéastes, de toute sculpture, tout moyen, en fait, d'exprimer le milieu maritime. Alors, si on a la passion de la mer, c'est absolument fabuleuse, parce que ça donne un accès à la mer, en mer, à tous les métiers de la mer, tous les métiers maritimes et les gens de mer. Alors, c'est vaste comme sujet. On a eu les très, très bonnes peintres que tout le monde connaît, comme Marin Marie, c'est les noms qui sonnent, Mathurin Meilleux, par exemple. Mais aussi actuellement, il y a Yann-Arthus Bertrand en photographie, Titouane Lamazou est un peintre de la marine. On a les dessinateurs de presse comme Nicolas Vial. Il y a Jacques Perrin qui a fait Ocean. Alors, c'est une sorte de collégiale de différentes compétences et passions, mais tout lié par la mer. Je travaille souvent à l'acrylique parce que ça sèche vite et c'est un atout comme la mer monte ou descend, le bateau va partir ou ils arrivent. On est dans une sorte d'urgence, donc ça c'est un atout, sauf dans les pays où il fait très chaud. Là c'est un désavantage parce que l'acrylique sèche trop vite. Donc, à ce moment-là, je travaille à l'huile ou à la gouache. En fait, j'essaie d'être très polyvalente parce que j'essaie d'être dans la tradition des maîtres qui sont passés avant et d'être capable de faire un portrait de quelqu'un ou dessiner un oiseau sur son nid, en même temps de faire un peu d'architecture, le bateau lui-même. En fait, j'essaie d'être polyvalente parce que c'est pas à la mode actuellement, mais les gens sont très dans la spécialisation. Mais je trouve que la mer est tellement large comme sujet. Je suis confrontée souvent par une multitude de sujets et j'essaie de l'attaquer. Alors, en même temps que j'ai fait tous ces différents sujets, je travaille les différentes techniques. Alors, si je suis en train de faire un poisson, je peux être dans la nécessité de compter carrément les écailles hein, pour que c'est vraiment nickel, vraiment représente le poisson exact. Mais j'aime aussi de me lâcher et de faire les grandes toiles, les très grandes toiles, qui sont des toiles d'ambiance, la nuit, la pluie, qui sont beaucoup plus abstraites. Et c'est peut-être celle-là où je suis le plus fort parce que il y a beaucoup de j'ai beaucoup de passion et émotion. Alors je me contente pas d'utiliser les couleurs comme ils sont. Je le fais comme je le sens. Alors je suis capable de faire les toiles qui sont avec la mer rouge, par exemple, ou de faire sur un fond tout bleu, une scène de nuit. J'essaie de faire une seule règle. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Que la peinture, c'est la liberté. Et ce qui est important, c'est de sortir une réaction immédiate avec l'environnement. Alors que l'autre personne, quelqu'un qui habite très loin de la mer, qui connaît rien sous la mer ou les bateaux, quand ils le voient, ils ont un sentiment de, à la fois de la place, le météo, le bruit peut-être, il y a une émotion. Beaucoup, beaucoup de monde, les toiles, les goélettes de la Marine nationale sont le premier embarquement. Je trouve que c'est très sympathique que le premier embarquement, c'est sur un bateau à la voile, parce que c'est la première chose que tout marin doit comprendre, même si on est sur la passerelle de gros navires, ou si on est sur un mouvement portuaire, ou si nous sommes sur une petite voilier, c'est d'où vient le vent. Le vent est tellement important en mer. Et alors, pour sentir le vent, de savoir le vent, un bateau à la voile, c'est vraiment la meilleure chose. Donc, tous ces jeunes et tous les officiers qui vont après être commandants, il faut qu'ils apprennent d'abord avec une voilier. Alors, ça me plaît beaucoup. Et puis, l'autre chose qui est très importante avec tous ces bateaux, c'est qu'ils sont beaucoup moins polluants. Et c'est la raison pourquoi j'ai voulu aller sur les bateaux de la voile, à la voile de la marine. C'est parce que j'avais déjà embarqué sur beaucoup de bateaux qui étaient beaucoup plus grands. Et j'ai vu partout sur la planète, partout où on va, de la pollution. C'est incroyable la pollution. La mer, elle est vraiment très touchée par la pollution. Et le rivage, le côte, les ports, c'est affolant. Alors, j'avais un sort de sentiment, à la fois un devoir d'essayer de promouvoir une sorte de navigation qui est moins polluante et en même temps une envie de montrer la beauté de la mer, mais je voulais continuer à embarquer. Donc j'ai fait un choix qui était vraiment un choix personnel d'essayer de mettre le spot sur la voile. Et bien, ces bateaux sont en bois, alors ce n'est pas les bateaux en carbone ou en plastique, c'est les bateaux qui sont bien entretenus, qui étaient construits dans les années 30 ou 32. Ils naviguent encore, ils sont magnifiques, on peut aller très loin avec, on peut faire beaucoup de choses. Alors pour ça, j'ai décidé d'embarquer sur un des deux, n'importe lesquels, n'importe quelle destination. Mais pas une fête maritime où c'est juste à la journée. J'ai voulu faire une navigation plus longue pour que je comprenne vraiment ce que c'est la vie à l'intérieur de ces bateaux, qu'est-ce que c'est la vie dans une voilier où nous sommes tous un peu comme les sardines dans une boîte, un sur l'autre. Il y a tellement de. On n'est jamais seul, on n'a pas de vie privée presque. C'était un souhait de ma part. Eh ben, il fallait convaincre un commandant pour me prendre à bord. Et alors, je l'ai fait une journée de test de voile. Il y avait une jolie petite forcenette sur la rade. On a sorti à la journée. J'ai eu le verre pour naviguer avec eux. Et à ce moment-là, j'ai découvert lequel bateau que ça va être et quel voyage ils m'ont proposé. Mais ils m'ont dit que je n'avais pas le droit de débarquer. Il fallait que je parte de la port d'attache et que je revienne avec le bateau à la port d'attache parce qu'ils n'avaient pas un moyen de me remplacer en cours de route. Et il faut l'équipage entier parce que ces bateaux n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas les winches, ils n'ont pas les cabestans, les choses comme ça, tout électrique. C'est les forces des bras, c'est les muscles qui montent les voiles. Donc il faut 8 personnes minimum pour chaque quart. Et quand il y a une grande manœuvre, 16. Donc j'ai pensé que ça va être Brest-le-Havre, franchement. J'ai pas pensé que j'avais une aventure devant moi. J'ai pensé de partir 5 jours. Et puis non, le commandant a dit, ben voilà, on va au Groenland et on part pour 3 mois. Et waouh, c'était quand même un moment très fort parce que j'avais juste fait une seule journée avec Fourceneuf et waouh, c'était déjà. On est encore le vent dans les cheveux. Hein. C'est à la fin de la journée, on est contente de descendre du bateau et prendre un chocolat chaud et dire bon, ben voilà, on dort bien cette nuit. L'idée qu'il fallait continuer pendant la nuit et reprendre le lendemain et faire ça pendant 3 mois et avec les conditions plus en plus froides. Mais en même temps, ça faisait tellement rêver. C'était de partir aux îles Féroé d'abord, et puis Islande, et puis Groenland, malgré que c'était la folie. Hein. J'ai dit oui. J'ai dit oui.
Les grands voiliers d'antan au pied des murailles de Saint-Malo, une image qu'on croyait n'appartenir désormais qu'à la légende. Spectacle grandiose que cette trentaine de voiliers écoles regroupés dans la cité corsaire avant leur départ pour la dernière étape de la course des grands voiliers. Cette course, nous l'avons suivie à bord de l'Étoile. Il fallait relier Saint-Malo à l'île de Wight au large de Portsmouth, une distance de 152 milles, soit près de 300 km. En attendant l'heure du départ, la goélette louvoie à faible allure. Il faut régler les 8 voiles, soit près de 440 mètres carrés de toile à brasser. Sans treuil, mais au palan et à la force des bras. Pour la seule grande voile de 150 mètres carrés, 6 équipiers doivent tirer en cadence, reprenant mètre par mètre le tergal râpeux qui brûle les nez. Le gabier grimpe en haut du mât de misaine pour régler le hunier.
Perdant 312! Droite fin. Ça paraît 20 à droite. 0. 0.
L'étoile, construite il y a 40 ans à Fécamp, est une réplique exacte des goélettes de la Grande Pêche qui, jusqu'en 1938, partait de Paimpol pour l'Islande pêcher la mole.
À droite 20.
À droite 20.
Ça va arriver à droite.
Bien.
Midi, lors du départ, c'est la fièvre à bord. Aussitôt, la goélette s'élève dans le vent.
Allez!
Attention, quelqu'un écoute cette raquette là-bas.
Après 24 heures et 36 minutes de course, nous passons la bouée d'arrivée au large de l'île de Wight, terme de l'épreuve. La belle poule nous y attend déjà, remportant ainsi la victoire. L'étoile sera quatrième derrière Malcolm Miller et Dodo 4. Preuve est faite que la marine à voile n'est pas morte et que les voiliers écoles ne sont pas des reliques qu'on contemple, mais des bateaux, des vrais.
On a parti dans l'œil d'une tempête, c'était absolument romanesque le départ. J'étais jamais aussi malade de ma vie, mais j'ai vomi jusque je ne pouvais plus vomir. J'étais à quatre pattes, mais j'étais pas le seul, hein, parce que il y avait les gardes de l'équipage qui étaient à bord depuis 16 ans qui m'ont dit, ils étaient contentes. Ils ont dit, ben oui, c'était elle est tellement magnifique la mer que moi aussi j'ai vomi. Alors, c'est pas très compétent quand tu as la tête dans le seau. Hein. Mais je fais mon quart quand même. Hein. Il faut faire ses quarts quand même, hein, même si on est à quatre pattes. Il faut être sous le pont. On ne peut pas rester dans sa bannette. Hein. C'est la première chose que j'ai compris, c'est qu'on fait partie d'une équipe. Il faut prendre sur soi. Hein. Même si on est bon à rien, il faut être bon à rien au milieu des autres. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire quand même. Ben, juste notre présence est indispensable. Donc voilà. C'est, mais au bout de quelques jours, 4 jours, 5 jours, j'ai commencé d'être mieux. Et puis finalement, on a eu des grandes tempêtes au large de Faroé, entre Faroé et Islande. J'ai eu le plaisir de l'avoir, l'expérience grandiose de la tempête sans être malade et de le voir ces vagues décapitées, le ciel de soufre et hurlement de la nature. C'est magnifique, je ne regrette rien. À la flottaison, le bateau fait 25 mètres, mais elle a le bout dehors, hein, parce que c'est une goélette. Une goélette, c'est un gros bateau en chaîne, et on peut le reconnaître tout de suite si nous sommes au bord de la mer, parce que le deuxième mât, il a deux mâts, le deuxième est plus haut que le premier. À bord, il y a un équipage de 16 personnes sur à la fois la toile et la belle poule. Parce qu'ils naviguent 2 jours. Donc, avec deux équipes de 8, ils peuvent assurer. Mais quand ils partent pour un long voyage, il faut 8 personnes de plus parce qu'il y a la navigation la nuit aussi. Donc, 24 personnes à bord. 24, elle est à bloc. Il n'y a plus de bannette libre. S'il y a une personne de plus, il faut dormir sur la banquette. Il y a ou au sol, ou mettre un hamac. Il n'y a pas de l'espace est très très contraint. Les bannettes sont très petites. Moi, la mienne faisait 60 cm de large par 1,70 m de long. Et ils sont rangés un sur l'autre dans les blocs de toit à la fois. Il y a juste une rideau qui nous donne une semblance de vie privée. À bord, presque tout le monde a plusieurs capacités. Par exemple, il y a une infirmière, mais elle fait aussi la voile. s'occupent aussi de les voiles. Tout le monde barre plus ou moins pendant le quart. Toutes les manœuvres sont faites tout ensemble. Il y a une cuisinière, la personne qui fait la cuisine aussi peut donner main forte pendant les manœuvres. Alors moi, j'avais pensé que j'ai monté à bord comme peintre. Sur tous les autres bateaux où j'avais navigué jusqu'à là, j'avais ma carte blanche, j'ai peigné le moment de la journée que j'avais envie, le matin, la nuit, je faisais ce que je voulais, j'avais mon programme à moi, il n'y avait aucune contrainte, et puis j'étais absolument horrifiée à découvrir que j'avais un quart fixe tous les jours et que j'étais aussi obligée de faire la voile. Parce que je ne connaissais rien de la voile, je me suis dit... qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, on apprend vite. Hein, en fait. Alors, j'ai appris à hisser les voiles, de barrer, de tout ce qu'il fallait faire. Hein. Comme j'ai faisais un quart, j'ai commencé ma journée à 3h30 tous les jours à bord. J'ai toujours eu le même quart, j'ai commencé à 4h. Et quand il y a une seule toilette à bord, hein, pour tout le bateau. Et on était avec les combis complètes. C'était pour éviter les queues très longues le matin. Je me levais bientôt, plus tôt que nécessaire, pour que j'étais peinard pour démarrer ma journée. Donc après, j'étais toute mitouflée avec mon combi. J'ai passé 8 heures par jour dehors sur l'étoile. Et le chose que c'est important à penser de ce temps-là, c'est qu'on a un contact direct avec la mer sur ces goélettes, parce qu'il n'y a pas d'abri à bord pour l'équipage. On est à 2-3 mètres de la mer, en contact total avec les éléments, et puis on passe 8 heures par jour sur le pont.
C'est formidable. Ça m'a donné un coup de jeune, parce que tout le monde à bord est très jeune. Alors, j'ai appris à écouter la musique rap jusque-là. Je ne connaissais pas trop. j'ai appris à faire beaucoup de jeux parce que dans les carrés de l'étoile, il n'y a pas de Wi-Fi à bord, il n'y a pas d'ordinateurs perso, des choses comme ça. Hein. Et c'est la navigation qu'on voit trop fort dès qu'on est loin de la côte. Donc, le peu de temps libre qu'il y a, les gens font des jeux, ils jouent aux cartes, ils font des jeux de toutes sortes. Donc j'ai appris plein de jeux complètement bêtes, très amusantes, en équipe avec plein de monde. Et ben c'est très curieux pour un peintre, parce qu'un peintre a une vie très solitaire en fait. On passe beaucoup de temps dans notre atelier, entre nous et notre toile, où je suis sous un quai et je suis en immersion dans ma toile, mais ce n'est pas un travail en équipe. Un peintre, c'est une relation avec les pinceaux et la peinture. C'était quelque chose de complètement neuf pour moi. C'était comme un sort de voyage initiatique, comme on fait quand on a 20 ans. Et bien, sauf que moi, j'ai fait ça à 54. Et alors, j'ai une bonne forme. J'ai toujours eu beaucoup de forme. Je suis très... je fais du vélo, je fais plein de choses. Alors, je n'avais pas de problème physique du tout. Mais intéressante pour les jeunes à bord, l'équipage, parce que je me suis trouvée en train de travailler avec en équipage avec des gars, des femmes qui ont l'âge de mes enfants. Alors... je l'ai dit, mais ça pouvait être votre maman qui est dans la bannette en dessous ou au-dessous. Alors là, il y avait toujours un sort de silence. Et ben, ça le mettait devant l'idée de ce qu'eux, ils voudraient faire quand ils sont plus âgés. L'idée de ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable à faire. En fait, on est capable de faire beaucoup plus qu'on imagine. Hein. C'est... tout le monde peut faire plus qu'ils imaginent. Et alors, la mer, ça donne cette possibilité. Et il ne faut jamais sous-estimer de ce qu'on peut, on est capable, ce qu'on peut apprendre à faire. De faire la peinture à bord, c'est pas facile parce que, bien sûr, ça bouge, mais c'est pire que ça. C'est pas le fait que le bateau bouge qui est complexe, c'est le fait que les voiles bougent par rapport au vent. On a à la fois le mouvement de la mer et le changement de la position des voiles, donc les ombres sous le pont. À chaque fois qu'on vire, toute la lumière change. Donc, on peut être en train de peindre une vue du bateau, on vire, le bateau vire, on change de cap, et puis d'un coup, toutes les lumières sont de l'autre côté, toutes les ombres sont différentes, on a à la fois le mouvement du bateau, et puis c'est très, très changeant tout le temps avec... Alors ça, c'est un peu énervant quand même. Puis, on ne sait jamais s'il y aura... un petit averse. Donc, il faut travailler vite. Il faut trouver les moyens. J'avais déjà prévu un système de pinces pour pincer les feuilles tout autour. J'ai travaillé sur du papier canson, le plus simple. D'abord, sur une voilier, il n'y a pas la place pour avoir les châssis de la voile étoile rigide. Donc, il faut les petits formats parce que j'étais obligée de dormir avec mes tableaux. Donc, quand j'avais il n'y a aucune, on part en voyage pour 3 mois, le bateau est à bloc de l'eau à boire et de choses à manger. Alors, il n'y a pas la place pour tout le reste. Alors, il fallait que je dors avec mes tableaux. Donc, j'ai travaillé sur papier, canson, dans les petites pochettes en plastique comme les enfants utilisent à l'école, hein, exactement les mêmes. Et j'ai séché avec un sèche-cheveux. Pour qu'ils étaient bien secs, parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite vague sournoise qui décide d'arroser les tableaux. Et puis quand ils étaient bien secs, on avait la selle qui s'accroutait des fois, et j'ai glissé sous le matelas. Donc j'ai dormi sous mes tableaux, et comme ça ils étaient bien plates, et je pensais que c'était l'endroit où il sera plus à sec. Puis j'avais amené quand même une châssis démontable, et un petit rouleau de toile, et quand nous sommes arrivés à terre, j'ai remonté la châssis, j'ai tendu la toile, j'avais un petit kit avec une petite graffeuse, j'ai graffé ma toile, et toujours avec cette peur de trouver un manque d'une couleur à 1000 km d'une fourniture de beaux-arts, enfin, c'est ça un problème. J'ai quand même calculé la peinture correctement, mais j'avais sous-estimé le papier que j'avais besoin. Donc, arrivé aux îles Féroé, il fallait que j'achète du papier et les îles Féroé, ils n'avaient pas de fourniture beaux-arts sur les îles. Tout ce que j'ai trouvé, c'était le papier qui restait après Halloween, noir. Ils avaient du papier noir qu'ils avaient utilisé pour le décor des enfants pour Halloween. Donc, j'ai acheté les rouleaux de papier noir et je travaille sur papier noir après. Donc, c'est beaucoup de tableaux sur un fond noir qui, en fait, étaient parfaits pour l'ambiance plus en plus dure. Enfin, c'était dur, le nord. On a enlevé le nord et puis c'était volcanique. Donc, il y avait les roches noires. Alors, le papier noir, c'était très bien. Et puis, en plus, ils peignent les maisons noires, souvent. Ils sont faits avec du goudron, donc suffit de mettre un tout petit peu de lumière. Et je l'avais, le fond de papier m'a servi pas mal en fait. C'était un hasard heureux. C'est la chose la plus importante sur notre planète. Hein. Pour moi, c'est la mer a un rôle absolument primordial dans nos vies, de nous tous, même si on habite au milieu du Kazakhstan. La mer a un rôle fondamental sur nos vies de tous les jours. 85% de tous les biens de la planète sont transportés par la mer. La mer, c'est à la fois le vent, c'est la température de notre quotidienne, c'est le météo à Paris. Même si on habite dans une tour, dans un banlieue, la mer, loin de la mer a un rôle
d'une importance. Alors, comment ignorer la mer? C'est la chose la plus forte de notre planète. C'est tellement vaste comme sujet entre la faune, la flore, les métiers, le savoir-faire. Si on met à part les éléments, l'élément qui nous touche tous, c'est juste tellement grand comme sujet. C'est passionnant, c'est pour nous tous. C'est fondamental.
Anne a embarqué sur de nombreux bateaux, dont le sous-marin nucléaire Le Vigilant, le porte-avions Charles de Gaulle et le remorqueur de haute mer l'Abeille Bourbon. Elle expose en permanence dans plusieurs galeries en France et à l'étranger. Son atelier est aujourd'hui à la Gacilly, petite cité bretonne, renommée pour ses arts et son artisanat, accueillant tous les ans le plus grand festival de photos en plein air. Retrouvez le portrait de Anne sur le site du podcast womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, cuisinière, embarquée sur le Rara Avis de l'étonnante association du Père Jaouen.